9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. On terminera cette émission avec Juliette Gréco qui nous a quitté mercredi, que j'avais reçue à plusieurs reprises sur Europe 1. Entre temps, je recevrai Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard qui s'adressent aux mamans d'aujourd'hui dans La mère parfaite est une connasse, c'est un guide de survie. Et Hector Obalg, le premier critique d'art à faire l'Olympia. Mais d'abord, La République, on a passé la semaine à parler d'elle, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale exhortant les collégiennes à porter des tenues républicaine ou la ministre déléguée à la citoyenneté qui voudrait couper le sifflet aux associations exprimant des avis contraires aux valeurs de la République. Et puis les élus et les restaurateurs marseillais se sont élevés contre la fermeture des bars et des restaurants décidée par le ministre de la Santé et l'on s'est demandé si ce n'était pas l'autorité de la République que l'on allait mettre à mal. Alors pour y voir plus clair, j'ai invité Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à l'université Paris 8 et l'auteur avec Thomas Brantôme d'une histoire de la République en France, des origines à la 5e République chez Economica. Bonjour Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
On ne cesse d'invoquer la République, de trier ce qui est républicain et ce qui ne l'est pas, ce qui appartient à la tradition républicaine et ce qui n'en fait pas partie. C'est quelque chose de récent en France ou ça a toujours été comme ça ?
Alors non, depuis la fondation de la République, on a évoqué toujours évidemment la République, mais ce qui est récent, c'est cette accentuation, dans cette répétition dans le discours public du mot républicain. On l'ajoute à toutes les sauces, le banquet républicain, la réunion républicaine,
le forum républicain,
les bonnes intentions républicaines. Bref, à mesure que la République perd de son sens, on ajoute de plus en plus le mot républicain qui, au fond, perd un peu de sa signification originelle et qui signifie de plus en plus le bon sens, enfin ce qu'on essaie de trouver comme dénominateur commun pour encore créer une société ensemble.
Jean-Michel Blanquer a dit qu'il fallait venir à l'école habillé de façon républicaine, sous-entendu par là avec une tenue jugée trop sexy.
Exact.
C'est quoi une tenue républicaine ?
Justement, ça relève de ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est une tenue que le bon sens jugerait à peu près correcte pour aller à l'école. Et comme on n'ose pas utiliser maintenant les mots de morale ou de convenance, on utilise le terme républicain qui paraît beaucoup plus neutre, beaucoup moins...
Mais en même temps, qui ne veut rien dire.
Personne
n'ayant jamais entendu parler d'une tenue républicaine.
Disons qu'à la grande époque de Jules Ferry, la blouse était peut-être la tenue républicaine. Mais je ne pense pas que ça soit ce vers quoi on veut aller.
Marlène Schiappa, elle a beaucoup invoqué les valeurs de la République. Mais c'est quoi les valeurs de la République ?
Alors, c'est très compliqué parce que, si vous voulez, il y a plusieurs conceptions de la République. Il y a la conception minimaliste qui est la vôtre ou la mienne, probablement. C'est-à-dire, la République, c'est un régime politique. À partir du moment où on élit les représentants, on est en République. Mais il y a une conception qui est à la naissance même de la République, une conception qu'on pourrait dire de gauche, si vous voulez, enfin, quand la gauche était encore la gauche, quoi, et qui considère que la République, elle a un certain nombre de valeurs. Il y a ce que Péguy appelait la mystique républicaine. Donc, c'est ambigu. Il y a, en effet, pour un nombre important quand même de Français, il y a des valeurs de la République. Alors, après, elles évoluent évidemment avec le temps, mais par exemple, il y a la valeur de l'amour de la patrie. On était encore dans nos chants républicains. Mourir pour la patrie fait partie des grands chants de la Marseillaise ou du chant du départ. Il y a l'amour aussi du peuple, c'est-à-dire l'idée de la République est quand même quelque chose de social. Et puis, il y a aussi en France, c'est une singularité française, l'idée d'une rationalité républicaine, en particulier notamment la laïcité. La République défend un certain nombre de valeurs, si on peut dire.
Ou de principes. Alors,
en réalité, d'un point de vue juridique, il vaudrait mieux parler de principes, de principes fondamentaux. C'est inscrit d'ailleurs dans la Constitution, mais on utilise le terme valeur. C'est amusant d'ailleurs parce que c'est le seul moment où on parle encore de valeurs dans le discours public.
Mais le problème, c'est que l'égalité homme-femme, par exemple, ça n'a pas toujours été respecté par la République, c'est le moins qu'on puisse dire. La liberté aussi, on aime la liberté, mais c'est relatif. Certains Français sont plus libertaires que d'autres. Il y a des croyants et des athées, des monarchistes et des anarchistes. Ce n'est pas un problème. Ce que l'on exige des citoyens, c'est qu'ils respectent la loi, pas qu'ils partagent les mêmes valeurs. Nous ne sommes pas obligés, vous et moi, d'avoir les mêmes valeurs.
Non, absolument pas. Mais comme je vous le disais, encore une fois, le discours républicain, il est ambigu parce que Il y a le discours d'aujourd'hui qui est un discours plutôt libéral en réalité et donc tolérant. On n'est pas obligé de partager les mêmes valeurs. Mais songez aux origines de la République. Hein. En 1793, on était vraiment obligé de partager les mêmes valeurs, mais, sinon on allait sur l'échafaud.
Mais à partir de la Troisième République, j'ai l'impression qu'on entre dans une conception plus libérale de la République.
Et oui, enfin pas tout de suite, parce que pensez qu'au départ, que ce soit même Jules Ferry, que ce soit Gambetta, que ce soit tous les fondateurs de la loi de 1905, aujourd'hui on en fait une loi très libérale. À l'époque, elle était tout de même très clairement dirigée contre le clergé catholique. Donc, si vous voulez, ce sont en effet des valeurs qui ont évolué. Il est clair que depuis, disons, la Ve République, à partir du moment où De Gaulle est devenu un peu... au départ, De Gaulle n'était pas du tout considéré comme républicain par le camp républicain. Et puis, à partir des années 80, avec la biographie de Jean Lacouture et autres, si vous voulez, à ce moment-là, on a considéré que la République, c'était au fond un régime libéral, tolérant, qui était doté de toutes les valeurs de l'époque. C'est-à-dire de notre époque, donc de tolérance et de liberté. Mais elle n'a pas toujours été considérée comme telle.
Alors, on a vu les élus et les restaurateurs marseillais se rebeller contre la fermeture des restaurants et des bars, y voyant une mesure discriminatoire venue de Paris, tel point que le ministre a dû reculer d'une journée pour fermer ces restaurants et ces bars. C'est l'autorité de la République là, qui est menacée, qui était menacée en tout cas.
Oui.
C'était du séparatisme. Si, à partir de quel moment, parce qu'on va parler beaucoup de ce mot séparatisme dans la semaine qui vient, il commence où le séparatisme ?
Non, je pense que le séparatisme commencera à partir du moment où très clairement les élus non seulement appelleraient à ne pas respecter les règles fixées par l'autorité centrale, mais à partir du moment où ils appliqueraient des règles différentes. À partir de là, on serait dans une logique en effet séparatiste. Pour l'instant, c'est surtout de la protestation. Et il y a toujours eu des protestations dans l'histoire, en particulier aux origines même de la République. Maintenant, il faut voir comment les choses vont évoluer.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'historien du droit Jacques de Saint-Victor, l'auteur d'une impressionnante histoire de la République en France, des origines à la Ve République. Une province qui se rebelle contre la capitale, certains l'ont redouté en entendant à la fois les élus et les restaurateurs, les propriétaires de bars marseillais se rebeller contre l'idée d'une fermeture de leurs établissements. Une province qui se rebelle contre la capitale, donc contre la République, ça s'est vu ?
Alors, ça s'est vu d'abord à l'origine même de la République, puisque sous la Révolution, vous savez, il y a eu un courant qui n'était pas un courant monarchiste, qui était un courant républicain, mais en rupture avec le centralisme du Comité de salut public en 1793, qu'on appelait le courant fédéraliste. Et Marseille, d'ailleurs, a fait partie de ces villes qui étaient en rupture avec la volonté centralisatrice du Comité de salut public. Et on l'a d'ailleurs, Marseille a été sanctionnée très violemment par les révolutionnaires de cette époque-là, puisque pendant quelques mois, elle a été débaptisée, on l'a appelée la ville sans nom, parce que justement, elle s'était révoltée contre la République. En règle générale, dans notre histoire, les révoltes, disons, urbaines contre l'autorité centrale, c'est plutôt sous l'Ancien Régime. Hein. C'est plutôt sous l'Ancien Régime. J'ai regardé des révoltes d'élus, hein, bien entendu. Il y a toujours eu des révoltes paysannes, jusqu'à encore récemment, avec les bonnets rouges ou les bonnets blancs en Bretagne. Ça, c'est classique. Mais de voir des élus s'opposer violemment contre l'autorité républicaine, c'est assez rare. L'exemple le plus célèbre qu'on a eu, c'est la Commune de Paris, qui s'est révoltée contre Versailles, qui était à l'époque le gouvernement officiel. Mais bon, c'était un gouvernement un peu, contesté du fait de ses origines particulières. Depuis, la force de la France, c'était son histoire ultra-centralisatrice, si vous voulez. Et donc, il y a eu très, très peu de révoltes. Et là, actuellement, du fait probablement aussi du mouvement de décentralisation qui donne de plus en plus de pouvoir aux élus, qui les institue un peu comme des sortes de potentats féodaux locaux, eh bien, on voit naître cette tendance un peu nouvelle. Moi, j'ai été très frappé de l'expression de la maire d'Aix-en-Provence, pas de Marseille, mais d'Aix-en-Provence, qui dit « ferme-la, Véran », quoi. C'est-à-dire qu'on a une élue locale qui s'exprime un peu comme un gilet jaune à l'encontre du ministre de la Santé. On est là, en effet, dans quelque chose d'assez neuf dans l'histoire de la République.
Mais Marseille avait été mise sous tutelle de l'État en 1939. Oui, un administrateur avait été nommé en Conseil des ministres. Tous les pouvoirs administratifs, même les pouvoirs de police, avaient été placés sous son autorité. Qu'est-ce qu'il avait fait le maire de l'époque, Henri Tassot?
Oui, alors là, à l'époque, c'était lié à une circonstance très particulière. Il y avait eu un très grand incendie au moment où le Parti radical, qui était le parti officiel dominant, avait fait sa réunion à Marseille. Et on s'était rendu compte de l'incompétence complète des pouvoirs publics. Et on avait un peu enquêté. Et Marseille était en réalité une ville extrêmement gangrénée par la corruption. À l'époque, il faut imaginer, Marseille est beaucoup plus corrompue que Naples, par exemple, avec les pouvoirs locaux qui sont en lien avec le crime organisé, en particulier les fameux Carbone et Spirito. Le film Borsalino brosse un peu cette relation douteuse des pouvoirs politiques et des pouvoirs criminels. Et là, c'était pour une autre raison. C'était pas du tout une révolte des élus contre la capitale. C'était la capitale qui s'était rendu compte que Marseille n'était plus sous contrôle, ou en tout cas sous contrôle du crime organisé. Et on a décidé de la suspendre et de nommer un administrateur jusqu'en 1941. Puis ensuite, il y a eu tous les événements de la guerre. Donc
Jacques de Saint-Victor, si la fermeture des bars et des restaurants décidés par les autorités de la République n'était pas respectée dans une ville ou dans une autre, peu importe, ce serait de la désobéissance civile, ce serait une rupture avec la République si les élus, en tout cas, l'encourageaient, montraient solidaires de ceux qui ne respectent pas la loi. Ça s'est déjà vu, ça?
Ça s'est vu, je vous ai dit, au moment de la Commune ou au moment du mouvement fédéraliste.
Non, mais je pensais plus récemment.
Plus récemment, non, parce que on est vraiment dans un pays à tradition centralisatrice où le pouvoir... les pouvoirs, on dit là à Marseille, on utilise beaucoup la rhétorique les pouvoirs parisiens, mais en réalité ce sont des pouvoirs qui ont été élus par l'ensemble du peuple français. Donc si vous voulez, il y a eu pendant, jusqu'à très récemment, cette idée que le pouvoir à Paris représente le pouvoir du peuple, de l'ensemble du peuple français.
Mais on a l'impression, pardon de vous interrompre, mais on a l'impression justement que c'est de plus en plus difficile de gouverner la France. Et tout à l'heure, Catherine Nel disait dans son éditorial, remettre des mesures de confinement, ce serait peut-être difficile aujourd'hui. Le gouvernement aurait peut-être du mal à les faire respecter. Là, il y a une rupture, il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous l'aviez annoncé déjà dans votre livre Les Antipolitiques en 2014.
Merci, oui. Oui, c'est un mouvement qui n'est pas unique français. Je pense même que la France est arrivée un peu plus tard que les autres pays d'Europe, notamment en Italie. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a de la part du peuple l'idée que les gouvernants ne nous représentent plus bien. Il y a une crise de la représentativité. C'est une crise très récente qui n'existait pas depuis au moins deux siècles. Et qui fait qu'aujourd'hui, et ce qui est nouveau à Marseille, c'est que ce n'est pas simplement le mouvement du peuple, genre Gilets jaunes, c'est aussi les élus locaux qui se mettent à relayer cette antipolitique qui est née récemment dans les années 2014-2016 et qui maintenant appuie ce mouvement contre l'autorité officielle élue. Et ça, c'est très très récent. Et c'est un mouvement qui, hélas, va se poursuivre parce que de plus en plus, on rêve de directisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un pouvoir direct du peuple vers la décision immédiate.
Merci Jacques de Saint-Victor. On se retrouve dans un instant avec les sœurs Girard.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Marie-Aldine et Anne-Sophie Girard, c'est à vous que l'on doit. La femme parfaite est une connasse, gros succès de librairie. Et comme depuis, vous avez eu des enfants, l'une de vous est même enceinte. Vous publiez La mère parfaite est une connasse, directement en poche, chez J'ai lu. C'est un guide de survie pour les futures mamans. Vous trouvez qu'elles en ont besoin?
Oui, plus que jamais.
Pourquoi?
Moi, je ne me doutais de rien. Donc là, c'est que des découvertes. Voilà, je pense qu'il faut vraiment... enseigner les femmes et les aider.
Une femme enceinte, d'après ce que vous dites, a toutes les raisons d'être irritable. Pourquoi ?
Ah, je pense que si vous aviez un alien de 3,5 kg dans le ventre, vous seriez irritable aussi. Donc oui, en fait, je pense qu'on a même tous les droits.
Ah oui, à ce point-là.
Ouais, à ce point-là.
Anne-Sophie, vous avez l'alien actuellement dans le ventre.
Ah, je ne peux plus.
Et vous êtes irritable.
Oui, Mais je l'assume, maintenant je le dis, oui. Et je comprends mieux les femmes enceintes qu'il l'était avant moi.
C'est drôle parce qu'avant, la littérature sur les femmes enceintes, c'était « Je suis enceinte » par Laurence Pernoux. Je crois qu'elle était enceinte pendant 50 ans au moins. Ah. Et c'était beaucoup plus jovial, beaucoup plus rose que ce que vous pouvez en dire aujourd'hui.
Justement parce qu'on nous a caché la vérité pendant des années. Et maintenant qu'on la découvre, j'allais dire avec horreur, mais j'exagère un petit peu, je pense qu'en fait, on a envie, nous, de casser tout ça et de leur dire la vérité.
Il y a tout de même encore des avantages à être enceinte, non ?
Je vous écoute. Non. Ah, non. C'était une question. Ouais. Non, parce que moi, les gens sont gentils. Voilà, je crois que c'est tout.
Ça se limite un peu à ça. En fait, déjà, on n'a plus le droit de boire, de fumer, de manger.
Ah oui.
Ouais. Non. Non, non. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut penser que quand vous êtes enceinte, vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez. C'est totalement faux. On n'a plus le droit de manger rien. Je veux dire, pas de poisson parce qu'il y a trop de mercure, pas de.
Le soja. Vous saviez que c'était un perturbateur endocrinien?
Non.
Ben moi non plus.
Et ben voilà. Donc on a une liste longue comme le bras de toutes les choses qu'on ne peut plus faire. Donc il n'y a pas vraiment de plaisir à l'être.
Ah oui, à ce moment-là.
Ouais.
Quelle différence y a-t-il entre les mères d'aujourd'hui et les mères du siècle dernier, les mères des années 60, les mères des années 80
celles à qui on rend hommage dans le livre, les mères des années 80. Celles qui nous déculpabilisent.
Oui, mais souvent, quand elles nous parlent, elles nous font « Ah, mais moi, à l'époque, on ne se prenait pas autant la tête, etc. » Je crois que c'est elles qui hallucinent aujourd'hui. Hein.
Les mères des années 60, par exemple, bon, buvaient de l'alcool. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais disons que les mères des années 80, elles se permettaient juste un petit verre de Bordeaux. Voilà, on nous disait « Oh, ce n'est pas grave, oh, tu peux boire du Bordeaux, ça, il n'y a pas de souci. »
Pourquoi du Bordeaux?
On ne sait pas.
Non, mais c'est vrai, c'est les vrais témoignages. On a pris beaucoup de témoignages pour ce livre. Et donc, on leur disait que le Bordeaux, ce n'était pas mauvais pour l'enfant.
Ouais.
On apprend aujourd'hui que non. Alors, on est un peu nostalgique, nous, de cette époque-là.
Oui, mais en même temps, tout peut changer. Peut-être que ce ne seront plus des perturbateurs endocriniens dans le soja d'ici. Pour les mères des années 2040.
Bien sûr, on croise les
doigts. Si ça continue comme ça, elles n'auront plus le droit du tout à rien. Mais heureusement, ces mères-là, de par leurs témoignages, nous disent voilà, nous, on vivait par exemple avec le martinet. Alors, c'était pas super, mais aujourd'hui, on n'a même plus le droit de mettre une fessée. Enfin, je veux dire, voilà, tout est en train de se réduire autour de nous. Et c'était vraiment le moment de dire aux femmes.
Fais attention, parce qu'on dirait que tu es nostalgique du martinet quand même, quand tu le dis comme ça.
Ah, c'est vrai,
je suis.
D'ailleurs, dans votre livre, à un moment, je ne sais plus laquelle des deux, conseille d'administrer une toute petite fessée discrète.
Ouais. Hein, mais on dit à la fin du livre, et nous nierons avoir dit ça.
Oui.
C'est quoi une mère indigne aujourd'hui,
Anne-Sophie?
J'ai l'impression que c'est ce que toutes les mères pensent d'elles.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on dirait que c'est toutes les mères normales, elles ont l'impression d'être indignes. Non, il n'y a pas de mère digne ou indigne. Ce sont des mères, elles font ce qu'elles peuvent, donc on déculpabilise les mamans. Vous n'êtes pas indigne, vous êtes normale.
On a tendance à prendre nos enfants en photo sous toutes les coutures et à les publier ensuite sur les réseaux sociaux, comme si c'était des stars. Est-ce qu'ils ne risquent pas de nous faire des procès plus tard pour atteinte à la vie privée? Et est-ce qu'ils n'auront pas un peu raison?
Oh, j'espère.
Ah, je pense qu'ils auront complètement raison de le faire. Moi, je suis un peu hallucinée. On a l'impression que les parents ne se rendent pas compte que les données personnelles, c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Et donc, ils donnent comme ça tout sur leurs enfants. Anso, elle me parlait d'une photo d'elle avec une cagoule.
Oui, non. Mais en fait, je me dis que si j'avais pu interdire cette photo, je l'aurais fait.
Quand j'étais enfant.
Ah oui.
Ouais, parce qu'elle était à deux doigts du procès aussi.
On se demande toujours quelle planète nous allons laisser à nos enfants. On ne se pose jamais la question à quels enfants allons-nous laisser cette planète. Vous les trouvez comment, les enfants d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont si parfaits que ça? J'ai l'impression que s'il y a une opposition, vous êtes plutôt du côté des mères, vous.
Ah oui. Ah oui, mais je crois qu'on n'a pas tous les enfants qu'on mérite. Déjà.
Déjà.
Ça,
non, on part du principe que de toute façon, l'enfant est ingrat. Ne vous investissez pas trop parce que le retour sur investissement, il n'est pas top top.
Il est limité. Vous allez être déçus.
Voilà, déjà, on pense, nous, on part du principe que de toute façon, quoi que vous fassiez, apportez-lui seulement de l'amour, parce que la seule chose qu'il fera après, c'est aller se plaindre de vous auprès de sa psy.
Qui lui expliquera que de toute façon, tout est votre faute.
Voilà.
Donc voilà.
Dernière chose quand même sur les pères, puisque la durée de congé de paternité vient d'être allongée cette semaine, passant de 14 à 28 jours, dont 7 devront être pris obligatoirement par les papas. Vous en pensez quoi?
Alors là-dessus, on n'était pas d'accord avec Anne-Sophie, parce que moi, ma première réaction, ça a été de dire « Oh punaise, encore un truc obligatoire ». C'est-à-dire que même maintenant, la loi va s'immiscer dans notre cadre familial. Et puis quand on pousse un peu le raisonnement, on se dit que c'est quand même une bonne chose, parce qu'autrement, ils ne le prennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la pression de l'employeur qui va trouver ça futile, léger.
C'est indispensable. Moi, je suis juste dégoûtée que ça se mette en place qu'en juillet. Mais je trouve...
c'est pour les vacances.
Non, c'est parce qu'elle accouche dans 2 mois.
Ah, oui. C'est pas de chance. La mère parfaite est une connasse. C'est signé Marielle Dean et Anne-Sophie Girard. C'est sorti directement en poche chez J'ai lu.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Hector Balck, vous êtes le premier critique d'art qui va faire l'Olympia. Vous y donnerez le 31 janvier toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Un spectacle que 23 000 personnes ont déjà applaudi au théâtre de l'Atelier où vous vous produisez chaque semaine depuis 1 an. Vous y serez d'ailleurs aujourd'hui à 15h et à 20h30. L'Olympia, c'est le dimanche 31 janvier. À 18h30, c'est déjà complet. Vous avez dû ouvrir une nouvelle séance à 14h. Dites-moi si le succès se confirme. Vous vous imaginez un jour au Palais des Sports ou faire le Zénith.
Trop gentil. Mon rêve à moi, ce serait de faire quelque chose, place de la Concorde, place de l'Hôtel de Ville, même sur les places des villes de province. Je suis sûr que sur très grand écran, ça peut être très très beau de voir la peinture, faire ça en stand-up. Voilà. On ne gagne pas d'argent quand on fait les choses dans la rue, mais je préfère. Voilà.
Vous voulez être populaire?
Je veux être populaire, ça, je ne serai jamais, hein. Mais il se trouve que le goût pour la peinture peut le devenir.
Alors c'est très spectaculaire, hein, votre spectacle, qui va disposer d'un mur d'images composé de 3500 tableaux dans lesquels vous zoomez jusqu'aux plus petits détails. On voit des Michel-Ange, des Caravage ou des Picasso comme on ne les a jamais vus, même au musée.
Oui, c'est vrai. Je pense que si ça a du succès, ce n'est pas parce que j'ai du bagou. Hein. Je pense qu'il y a un moment, les gens se disent « j'en ai eu pour mon argent ». C'est-à-dire qu'on leur a donné un luxe d'image, de sorte qu'on voit parfois la peinture mieux dans une salle de spectacle qu'au musée. Parce que je peux m'expliquer là-dessus si vous voulez. Au musée, quand on regarde une peinture, si elle fait 2 mètres de haut, eh ben, si vous voulez regarder ce qu'il y a en haut, là, dans la partie vers le ciel ou sur les montagnes, on ne voit rien parce qu'il y a le reflet de l'issue de secours avec un mec qui court, etc. etc. Pour voir un tableau, il faut à la fois l'avoir devant ses yeux pour en remarquer l'échelle, et puis d'autre part, il faut des livres ou Internet, ou je sais pas quoi, ou voir mon show pour voir les détails. Et c'est la synthèse des deux qui fait qu'on peut dire je connais ce tableau. Quoi.
C'est vous, Hector Obal, qui avez amené la critique d'art à la télévision, sur Paris Première d'abord, puis sur Canal+, puis sur Arte avec la série Grand Art. Vous êtes au fond le premier à vous être servi de la vidéo pour montrer les œuvres. Et c'est une petite révolution en soi que vous avez effectuée.
Ben, l'idée, c'était de connaître les tableaux, mais des tableaux, ça veut dire des centaines et des centaines de tableaux, d'abord en les filmant, avant de lire dessus, quoi.
C'est une époque formidable pour un critique d'art. On peut disposer, comme vous, sur son ordinateur, des reproductions haute définition de milliers de tableaux. C'était impossible autrefois. Quand Illifort écrivait sa célèbre histoire de l'art, on était au début du XXe siècle, il n'avait que quelques mauvaises photos en noir et blanc des tableaux.
D'ailleurs, je me demande comment il faisait pour écrire une si belle prose, tellement nourrie de détails extrêmement précis, alors qu'il n'avait aucun appareil iPhone pour s'en souvenir. Cela dit, il y a un bémol à mettre là-dessus. C'est que les images qu'on a sur Internet sont de très mauvaise qualité, même si elles sont de haute définition. Je parle de l'étalonnage. Vous détruisez Cézanne si les couleurs sont trop acidulées ou trop saturées. Et c'est toujours trop saturé. Ça, c'est un très gros problème qu'on a. Je fais un effort énorme pour faire que les couleurs ne soient pas pétantes, parce qu'on veut toujours que ce soit pétant. Et le bleu que je vois là de Europe 1, il ne peut pas exister en peinture. En peinture, les choses sont toujours un peu plus ternes, mais c'est dans cet aspect un peu terne qu'il y a plus de velouté. Donc, bon, il y a des bémols à mettre. D'autre part, on vit une époque formidable aussi parce que, de ce point de vue de la peinture, et de l'histoire de la peinture, parce que si vous allez à la chapelle Sixtine, elle n'était pas nettoyée. Il ne faut pas oublier ça. Il y a énormément d'endroits où les tableaux n'avaient pas eu le dépoussiérage qu'ils méritent d'avoir. C'est-à-dire que vous voyez, les reproductions de la Sixtine ne sont pas dues seulement à la mauvaise qualité des appareils photo, mais aussi à la mauvaise qualité de l'objet lui-même, qui avant les années 90, fin 80, je crois, était noir de poussière.
Alors, on peut aussi en faire un show de la critique d'art, ouais. Ce qui était encore mal vu il n'y a pas si longtemps. La critique d'art était censée être absconse, solennelle, très spécialisée. Votre spectacle est au contraire plein d'humour, musical, pédagogique et passionné. Il raconte toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, et c'est jamais la même que vous racontez.
Oui, c'est-à-dire, en fait, je fais plusieurs... c'est à chaque fois que je passe par une 20aine de tableaux. Là, je suis un spectacle dans lequel je fais un point particulier sur Monet et un autre sur Pontormo. D'autres fois, je vais passer plus de temps sur d'autres artistes. On me dit toujours, mais si tu fais toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, comment ne pas être superficiel? Il y a 50 grands artistes, peut-être 100, on va faire une minute par artiste, c'est ridicule. Sauf que non, moi je passe par une quinzaine ou une vingtaine de tableaux dans les détails desquels je rentre de façon très grande, et donc je peux être tout à fait spécialiste à l'intérieur d'un propos généraliste. C'est ça tout le truc. Mais il faut jamais oublier quelque chose, c'est que je suis pas tellement quelqu'un qui vulgarise l'histoire de l'art. Je suis quelqu'un qui fait de la critique d'art à l'intérieur de l'histoire de l'art. Quand on dit critique d'art, on veut dire tiens, c'est un bon film, c'est pas un bon film, vous conseillez d'aller le voir ou pas. Bref, on fait du jugement. Et les gens n'osent pas faire du jugement sur autre chose que sur le contemporain. Comme si ce qui appartenait au passé était accepté d'un... Comment dirais-je ? Comme si on devait passer pour un provocateur si on disait du mal d'un Raphaël ou d'un Turner. Non, il peut y avoir des bons Turner, quoique j'en doute, mais enfin, en tous les cas, des bons Raphaël et des mauvais Raphaël. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose d'un peu polémique à rejuger des choses qui ont été déjà jugées par le passé, que c'est à la fois instructif et drôle.
Mais justement, il vous arrive de choquer, y compris les gens qui viennent voir vos shows, parce que vous allez dire, bah, tiens, Turner, c'est pas terrible.
Non,
ou
non,
vous allez, il va vous arriver de dire, tiens, il y a un Delacroix là, oui. Celui-là, il est bien, mais celui-là, il est moche.
Et même, je vais opposer,
et d'expliquer pourquoi.
Et je vais opposer un cheval de Delacroix avec un cheval de Géricault pour dire combien est-ce que Delacroix, en gros, n'est que l'ombre de Rubens, alors que Géricault a une écriture de nouvelles. Bref, c'est en montrant et en comparant que par l'évidence, on peut prouver son point. Moi, en fait, si j'ai un petit succès, c'est parce que je libère les gens du droit d'avoir à juger les œuvres. Et c'est parce que je propose un jugement parfois un peu tranchant qu'ils peuvent se dire « je ne suis pas d'accord avec lui ». Dans l'autre cas, on est dans un jugement dans lequel tout le monde est à genoux devant les grandes œuvres du passé et on passerait pour un con en osant dire qu'on ne les comprend pas ou qu'on ne les sent pas. Donc je pense que le succès est dû à ça.
Alors, dernière caractéristique d'Hector Obalk, ouais. C'est que quand vous parlez d'un tableau, vous ne vous souciez absolument pas de ce qu'il raconte. Vous, pour vous, c'est de la peinture, et ça n'est que de la peinture, de savoir si ça représente une descente de croix ou une montée au ciel. Pour vous, c'est anecdotique.
Alors, vous exagérez à peine, mais c'est un peu vrai. Je veux dire par là que c'est pas que je suis un formaliste qui va s'intéresser qu'aux textures, aux couleurs, à l'espace, à la perspective et je ne sais quoi. C'est que je suis quelqu'un qui voit que d'abord c'est une femme qui pleure ou un homme qui souffre. Maintenant, il se trouve que cette personne, c'est tel saint ou tel saint. Mais en fait, ça n'a pas tellement d'importance de savoir quel saint il s'agit. C'est un homme qui souffre, qui est là et qui montre sa chair. Et sa chair est peinte avec plein de couleurs. Et c'est ça qui va compter. Donc je tiens compte quand même de ce que ça représente sur le plan figuratif, mais je passe un peu outre à ce que ça représente sur le plan symbolique. Parce que le symbolique, c'est vraiment le truc pour faire le malin. Ça veut dire, ouais, j'ai compris la clé. Sauf que si c'est une croûte, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette clé ?
Hector Obalk, vous serez le 31 janvier dans toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures à l'Olympia à 18h30, c'est déjà complet, mais il y a une nouvelle séance à 14h. Et puis de toute façon, vous êtes au Théâtre de l'Atelier cet après-midi.
Tous les week-ends, j'ai commencé en 3h, le samedi, le dimanche et le lundi.
Merci Hector Obalk, on se retrouve dans un instant avec Juliette Gréco, mais bien vivante.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Et voilà, Juliette Gréco, c'était en avril 2009 sur Europe 1. Juliette Gréco, vous avez été l'emblème de Saint-Germain-des-Prés après la guerre. Saint-Germain-des-Prés, à ce moment-là, incarnait la liberté, pas seulement pour les Français d'ailleurs, même les Américains venaient photographier, y compris Juliette Gréco d'ailleurs, avec Roger Badim, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés.
C'était un photographe américain qui s'appelait Karl Perutz.
Est-ce qu'on était si libre que ça à Saint-Germain-des-Prés à cette époque-là ? Ou est-ce que c'est un cliché ?
Ça, j'en sais rien, moi. Moi, je sais que j'étais, et que je suis, et que je reste, et que je demeure entièrement libre. Mais qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout la mode.
Pourtant, on sortait de la guerre. Est-ce que vous êtes d'accord, comme Sartre, vous pensiez qu'on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ? Parce qu'on avait la liberté de s'engager, et
non,
que c'était des engagements décisifs.
Non, je pense qu'on n'est jamais aussi libre que dans l'adversité, bien sûr. Que dans le don de soi, que dans le combat, bien sûr.
Il y avait un foisonnement extraordinaire à Saint-Germain-des-Prés à l'époque. Vous avez cité déjà un certain nombre de gens que vous avez pu y croiser. Qu'est-ce qui régnait là? C'était une fraternité?
Oui.
C'était un hédonisme?
Ah, mais c'est très curieux. Vous savez ou vous ne savez pas parce que vous êtes trop petit, mais à cette époque-là, les parents étaient des parents et les enfants étaient des enfants. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas à table, c'est-à-dire qu'on obéissait, c'est-à-dire qu'on était en esclavage. Voilà. Et tout à coup, des adultes, des maîtres, des professeurs ont donné la parole à leurs élèves. Et je suis arrivée à ce moment-là.
C'était la première fois qu'on s'intéressait à la jeune génération.
Ouais.
Vous considériez encore comme des enfants? Aujourd'hui, on dirait des adolescents. Le mot, je crois, n'était pas très employé à l'époque. Vous étiez des enfants qui avaient fait la guerre, quand même.
Ben ouais.
Vous aviez été en prison à 15 ans, vous.
Oui, 16 ans, ouais, 15-16 ans, oui. D'une part, mais d'autre part, ça, c'est pas ça qui fait de vous un adulte. Ça fait de vous rien du tout d'autre que... Moi, j'ai eu une chance folle parce que je suis tombée avec trois prostituées dans
votre cellule.
Dans ma cellule. Et j'ai appris que tous les hommes n'étaient pas mon grand-père. Ça m'a hyper servi.
Qu'est-ce que vous voulez dire que tous mes hommes... Vous ne connaissiez aucun homme à part votre grand-père jusque-là?
J'imaginais pas ce que pouvaient être ce qu'on appelle les hommes, non.
C'est elles qui vous ont enseigné?
Oui. Raide.
Alors, il faut dire que vous étiez en prison à 15 ans parce que votre mère avait fait de la résistance, oui. Votre sœur aussi, elles ont été arrêtées, déportées.
Et moi,
trop jeune, on vous a relâché.
Oui, non, on m'a relâché parce que je n'étais pas juive. Ni ma mère ni ma sœur d'ailleurs, mais ma mère et ma sœur sont parties pour Ravensbrück et ensuite à Leichen. Et moi, je suis restée un mois et demi, deux mois avec ces dames que je trouvais absolument fascinantes, dont je comprenais difficilement le langage parce que je sortais quand même du couvent. Mais ça m'a bien servi parce que ça m'a appris la méfiance. Et c'est une chose que j'ignore. J'ignore toujours la méfiance. Je ne suis pas méfiante du tout. Je me suis dit, peut-être qu'il faut quand même se méfier de cette engeance-là.
Vous en êtes méfié, ça m'étonnerait.
Je me suis dit que tout ce n'était pas mon grand-père. Point. Donc, il valait mieux éviter ce genre de personnes. Voilà. Les hommes.
On a souvent dit que Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, incarnait aussi un certain hédonisme, un relâchement des mœurs. Vous êtes d'accord?
Pas du tout. Il y a toujours eu des salopes, il y a toujours eu des macros, il y a toujours eu des putes, il y a toujours eu des femmes convenables qui étaient des salopes. Non. Bon, c'est pareil depuis que le monde est monde. Rien n'a changé. Relâchement des mœurs, c'était devenu peut-être plus évident d'embrasser les amoureux qui se rencontrent sur les bancs publics. Merci Georges Brassens. C'est vrai que ça irritait. Maintenant, on ne les regarde plus.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses, vous qui avez si souvent choqué dans votre vie, on y reviendra, Juliette Gréco, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent aujourd'hui, dont vous êtes témoin?
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous choque dans le comportement, par exemple, de la jeunesse aujourd'hui? Il y a des choses qui vous irritent,
non,
qui vous choquent?
Non, la jeunesse. La jeunesse ne me choquera jamais, parce que j'ai un espoir infini.
Elle peut se mettre des piercings, s'habiller en sadomaso, ça ne vous choquera pas, quoi qu'il arrive?
Je trouve ça parfois dommage, parce que ça détruit la beauté d'une fille ou d'un garçon, c'est tout. Je trouve ça dommage, mais si ça leur va bien, ça va. Ça ne me regarde pas, moi. Chacun est libre de son corps.
Alors quand vous disiez qu'il y a des choses qui vous choquent, ce sont des choses qui vous semblent injustes, voilà.
Ouais, je trouve qu'on est très injuste avec la jeunesse et qu'on ne s'en occupe pas. Je pense qu'il y a une espèce de démission de la part des adultes, enfin des adultes, des gens qui fabriquent leurs enfants. C'est dommageable et inquiétant. Voilà. Il y a un manque d'amour, un manque d'attention, un manque de tendresse, un manque d'intérêt.
Mais ça, c'est propre à l'époque, à votre avis?
Non, non,
ou
pas,
c'est humain?
Je pense que c'est... Non, c'est pas humain. C'est surtout pas animal, en tout cas. Parce que les animaux sont très, très protecteurs et très inquiets de la progéniture.
Vous-même, Juliette Gréco, vous sentez plus humain ou plus animal dans ce domaine?
Moi?
Oui.
Je serais plutôt un animal. Plutôt.
Quel genre?
Un animal protecteur. Ouais, je me sens responsable de plein de gens qui sont pas, que j'ai pas mis au monde, mais qu'on met au monde par l'amour qu'on a pour eux.
Vous étiez très jeune, on l'a dit, quand vous avez commencé à chanter. Vous étiez très jeune à Saint-Germain-des-Prés, c'était encore avant. Vous étiez très jeune en prison, vous étiez des enfants. À quel moment est-ce que vous vous êtes senti une adulte?
Ben demain, peut-être. Et alors là, je pleure.
Toujours pas.
Ah, je pleure.
Vous refusez absolument.
Ah oui, je refuse cette race qui s'appelle les adultes. Totalement, totalement. Je sais tout, j'ai tout vu, je vais t'apprendre. Non, je veux bien que... Ah oui, ça, j'ai des gens qui m'ont appris, mais c'était des artistes, c'était pas des adultes.
Est-ce que vous avez eu peur? Vous étiez au Brésil, je crois que c'est en 1952. Il y a une foule gigantesque qui fait la queue pour votre spectacle. Vous avez fait des tournées mondiales, hein, oui. Aussi bien au Japon qu'en Amérique du Sud.
Ça continue.
Et là, ils se pressaient comme des fous.
Ils pensaient que j'étais toute nue.
Voilà, ils pensaient que vous étiez toute nue. Parce que pour eux, les existentialistes, une existentialiste, voilà. Forcément, elle chantait nue.
Oui, je faisais l'amour sur les tables en marbre de bistrot avec Jean-Paul Sartre. Eh bien, non.
C'est quand même une légende qui vous a poursuivi tout autour du monde, plus particulièrement en Amérique latine.
C'est rigolo. Oui.
Comment vit-on avec? Ça vous a choqué quand on vous a dit ça?
Pas du tout. Ça m'a fait sourire. Mais non, ça ne m'a pas choqué du tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais quelle déception!
Ça ne m'a même pas déçu. Donc voilà,
pour eux?
Non, pour moi aussi, ça aurait pu. Mais je n'étais pas du tout déçu. Je suis restée, au lieu de rester 15 jours, je suis restée 3 mois quand même. Donc,
ils venaient quand même si...
Donc ils étaient habitués à n'entendre qu'une voix et ne voir qu'un visage et deux mains et à ne pas voir mes fesses. Voilà.
Plus tard, vous avez chanté une chanson qui a fait scandale elle aussi, c'était « Déshabillez-moi ».
Justement, tiens.
les paroles, c'est une chanson dans laquelle, tout le monde connaît cette chanson, c'est même pas la peine de la réécouter. Vous êtes à la fois sujet et objet. C'est la femme objet et c'est la femme sujet. Il faut à la fois la déshabiller, mais c'est elle qui l'ordonne. Est-ce que c'était important pour vous? Est-ce que vous l'auriez chanté si vous avez été seulement la chanson d'une femme objet?
Non, c'est sûr que non. Il n'y a pas de femme objet. Il n'y a que la courtoisie d'une femme qui se donne. C'est un cadeau.
C'est ce que disait Brassens, une femme sujet, un cadeau qui vous aurait choisi.
Eh ben voilà. Eh ben voilà, je dois avoir de la moustache.
Voilà, c'était Juliette Gréco en avril 2009. On se retrouve demain matin. Après le flash, ce sera Mediapolis avec Catherine Ney et Olivier Duhamel. Olivier, quel est le problème?
Écoutez, à la différence de vous, Frédéric, je ne suis pas magicien. Je ne peux donc pas recevoir Juliette Gréco. Et ce sera un sociologue prolixe et passionnant, Jean Viard.
Merci Olivier.